Bonsoir. Deux sujets sont au centre de la tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la tournée régionale de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la célébration à Kinshasa de la journée de la liberté de la presse. Tels sont les thèmes de la tribune de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Laurel Kankolé. Il est rédacteur en chef au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Laurel.
Bonsoir.
Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos des Grands Lacs qui paraît également à Kinshasa. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Samuel.
Nous serons également avec Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambove au Katanga. Bonsoir Thierry Mukelekele.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. La tournée régionale de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, et la célébration à Kinshasa de la journée de la liberté de la presse. Comment les journaux de Kinshasa ont traité ces deux sujets? Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
Bonsoir. La tournée de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, est toujours suivie avec intérêt par la presse. Le potentiel titre dans son édition de ce matin, le M23 crache sur les efforts de pacification de l'Est. Les mouvements rebelles, qui trônent depuis avril 2012 dans certains territoires de la province du Nord Kivu, ne s'est pas gêné de la présence dans la région de l'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, Mary Robinson, en posant des actes qui fâchent. Des sources concordantes du reste confirmée par celle de la MONUSCO, rapporte que le M23 a procédé le 1er mai, jour de la fête du travail, à la nomination des nouveaux administrateurs dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Le quotidien L'Avenir aussi titre sur la visite de Mary Robinson. Opium de Kigali, Mushikiwabo, Mont, Kagame se cache. Après Kinshasa, Mary Robinson s'est rendue à Kigali, ce avant Kampala, Bujumbura, Pretoria et Addis Abeba. Dans la capitale rwandaise, c'est la toute puissante Madame Mushikiwabo qui, jetant la poudre aux yeux de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, promet à Mary Robinson sa coopération pour appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba. Un mensonge cousu des fils blancs, certes. Paul Kagame a saboté cette visite. Sournois, il s'est contenté de s'entretenir avec son hôte par téléphone. L'Observateur, pour sa part, évoque le séjour de Mary Robinson à Goma. Nord Kivu, face à Mary Robinson, Julien Paluku propose quatre paliers pour éradiquer la crise. Elle en est à sa première tournée dans la région depuis sa nomination le 18 mars dernier en qualité d'envoyée spéciale des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Après Kinshasa, l'ancienne présidente irlandaise est arrivée à Goma dans le cadre de l'accord cadre signé dans la capitale éthiopienne le 24 février dernier. Comparativement aux accords précédents, ces derniers est qualifié d'espoir par Mary Robinson. Il y avait des accords dans le passé qui n'avaient pas marché et réussi, mais désormais, les choses doivent changer, soutient-elle, promettant de rester directe et franche vis-à-vis de tous ses interlocuteurs, son unique agenda étant la réussite de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je serai diplomate quand il faudra, mais aussi très franche envers les uns et les autres, a-t-elle martelé, et de poursuivre. Tous les partenaires doivent travailler ensemble pour trouver une solution à la crise qui sévit en province du Nord Kivu. Les journaux Paris ce matin titrent également sur la journée de la liberté de la presse organisée comme chaque année ces 3 mai. La prospérité s'intéresse au message des journalistes en danger, une ONG de défense de la liberté de la presse qui appelle les médias et les journalistes congolais à briser les chaînes de la censure et de l'autocensure. Les journaux notent que les relevés effectués chaque année par les monitoring des indique la dégradation constante du climat de travail des journalistes et la mise sous coupe réglée de la presse et des médias congolais par des pouvoirs politiques et financiers. Depuis le début de l'année 2013, JED a enregistré au total 52 diverses violations des droits d'informer et d'être informé en République démocratique du Congo, soit une moyenne de 3 cas d'atteinte à la liberté de la presse chaque semaine. Dans son éditorial, Le Potentiel affirme qu'il est vrai que les journalistes ont le malheur d'être souvent bouffé par les prédateurs de la liberté de la presse qui sont bien connus puisque s'adonnant en un point sans lasser à ces vilains jeux. Parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir et d'autorité, ils tuent les journalistes sans pitié, ils en assassinent quand le plaisir leur passe par la tête, ils se permettent tout cela parce que puissance d'argent. Quoi qu'il en soit, poursuit l'éditorialiste des potentiels, la liberté d'expression est un droit fondamental, ainsi que l'a si bien révélé le secrétaire général des Nations Unies à la faveur de cette journée. Cette dernière est un droit fondamental inscrit à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Merci Guy Maté. Laurette Encolé, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine, c'était aussi la célébration de la Journée mondiale du travail. Et à Kinshasa, en lieu et place du défilé, le ministre de l'Emploi s'est entretenu cette fois-ci avec les représentants des travailleurs à la place du cinquantenaire. Ces derniers lui ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent. Quel est votre commentaire?
Mon commentaire est le même. Et ici, c'est un commentaire personnel qui n'engage pas la ligne éditoriale de mon journal. Je me dis, ok, entretien avec les différents syndicats du monde de l'emploi, c'est très bien, mais c'est un rituel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le même cahier de charges qu'on a toujours présenté et je parie que ce sont les mêmes promesses. Enfin, au finish, de concret, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que seuls les syndicats peuvent savoir de quoi il sera fait demain. Mais moi, je me dis, je ne suis pas dans un pessimisme tout à fait obsessionnel, mais je me dis en même temps que on en a assez de ce genre de discours, ce genre de promesses. Parfois, j'ai presque envie de dire qu'ils sont fallacieux. Mais bon, peut-être il faut garder espoir. Voilà.
Beno Kambere, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos des Grands Lacs. Cette semaine était aussi marquée par la célébration en RDC de la Journée nationale de l'enseignement. Et plusieurs observateurs constatent que le niveau de l'enseignement au Congo est en déliquescence ou en baisse. Un bref commentaire.
Avant le 1er mai, c'était le 30 avril, journée de l'enseignement en République démocratique du Congo. J'ai envie de dire la même chose que Laurel, parce que c'est encore une fois, certes, le niveau de l'enseignement est en baisse, mais cela est dû à plusieurs causes, n'est-ce pas? Les enfants ne sont pas allés à l'école, les enseignants ont médité à la maison sur leur sort, triste sort, j'allais dire. Salaire maigre, certes. Le budget de l'enseignement a périclité depuis très longtemps, alors que à l'indépendance de notre pays, le budget de l'enseignement atteignait les 30%. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faudrait vraiment que les dirigeants de ce pays songent un tout petit peu à ce volet très important de la vie du pays, l'enseignement.
Oui, Thierry Moukele-Kele, vous êtes journaliste à la radio-télévision Jedi Dia de Kambove-Katanga. Quelle est l'actualité qui est à la une aujourd'hui à Kambove-Katanga?
Les activités, c'est pratiquement la journée des enseignants ainsi que la journée du travailleur, 1er mai, qui sont restés pratiquement en inertie. Ça dit qu'aucune activité est signalée ici à Kambove et les enseignants sont restés à attendre si jamais au niveau supérieur on s'en gérait au moins à ce qu'on a promis, à un certain ajout sur leur salaire. Mais chose qui n'est toujours pas fait. Alors il y avait tentative de mouvement de grève, mais avec les autorités locales, on a dû négocier avec ces enseignants pour que les cours reprennent en séjour.
Nous abordons directement notre premier thème de ce soir. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, poursuit sa tournée dans la région des Grands Lacs. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Addis Abeba. Hier jeudi, elle a quitté Kigali pour Kampala. Dans la capitale ougandaise, Madame Robinson a affirmé qu'elle était encouragée par des discussions constructives qu'elle a eues avec le président Yoweri Museveni, ainsi que Crispus Kiyonga, ministre ougandais de la Défense et facilitateur des pourparlers de Kampala entre le M23 et le gouvernement congolais. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs a aussi dîné avec 20 ambassadeurs, membres de l'équipe pays accréditée en Ouganda et les représentants sur place du CICR et du MSF. Avant de se rendre à Bujumbura, elle a échangé notamment avec les membres des 40 ONG. Mary Robinson a débuté sa première visite dans la région par l'étape de Kinshasa le 29 avril dernier. Jeff Ngoy revient sur les étapes de cette tournée.
À l'étape de Kigali, Mary Robinson s'est déclarée encouragée par ses conversations avec le président rwandais Paul Kagame par téléphone et sa ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo sur place. Selon l'envoyé spécial, ses interlocuteurs lui ont confirmé l'engagement du gouvernement rwandais à coopérer étroitement avec elle pour assurer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Conclu conclu en février dernier, l'accord de paix prévoit le déploiement d'une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO pour sécuriser l'est de la RDC. Les 11 pays signataires de cet accord se sont engagés à œuvrer ensemble pour son application effective. Si nous pouvons amener la paix, ce que nous devons faire est empêcher les groupes armés de toutes sortes d'opérer dans l'est de la RDC. Cela aidera le Rwanda et la région tout entière, a assuré Mme Robinson, citée par une dépêche onusienne. Après Kampala, l'envoyé spécial se rendra au Burundi, puis en Afrique du Sud, avant de conclure sa mission au siège de l'Union africaine à Addis Abeba le 5 mai. Elle a annoncé qu'elle reviendra à nouveau dans la région afin de rencontrer d'autres signataires de l'accord cadre de paix.
Concernant cette visite, le gouvernement congolais s'est réjoui de la présence de Mary Robinson en RDC. Selon le ministre congolais des Affaires étrangères, cela marque justement le début de la mise en œuvre de l'accord cadre signé à Addis Abeba et de la résolution 2098 de l'ONU. On écoute Remo Chibanda au micro de Richard Junior Kamonga.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est réjoui de la visite de Mme Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, parce qu'elle marque le début de la mise en œuvre aussi bien de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cadre de cette résolution, il a été effectivement décidé du déploiement de la brigade d'intervention qui doit fonctionner au sein de la MONUSCO pour assurer la protection et la surveillance de la frontière, mais aussi et surtout pour mettre fin à l'existence des forces négatives des groupes armés dans notre pays, en commençant par les plus virulents d'entre eux, en tête desquels le M23. Je voudrais dire qu'au moment où nous parlons, le processus avance comme prévu. Vous savez que le commandant de la brigade est déjà sur place à Goma. Les premières unités sont annoncées pour autour du 30 avril comme initialement prévu. Nous sommes confiants, nous pensons que les choses vont se dérouler comme prévu.
Laurent Kankolé, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, décrit les contours de sa mission dans la sous-région des Grands Lacs. Selon elle, celle-ci marque le début de la mise en œuvre de l'accord cadre signé à Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mary Robinson a aussi déclaré que l'accord cadre d'Addis Abeba est un cadre d'espoir. Est-ce que vous croyez vraiment que tous les ingrédients ou toutes les conditions sont réunies pour qu'on parle d'un accord d'espoir?
Merci Samuel. Je crois, à mon sens, faire une rétrospective de la situation. Et vous serez d'accord avec moi que la sociologie de conflit en RDC a ceci de particulier qu'elle est marquée par plusieurs accords signés, particulièrement entre Kinshasa et le Rwanda. Et je suis tenté de dire que les relations entre le Rwanda et Kinshasa, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sont riches en accords et pauvres en résultats. C'est vraiment pas la première fois. Une chose est de signer, une autre est de veiller à ce que ce qu'on a signé soit effectivement mis en application. Dimanche 24 février, jusqu'au 30 avril, nous aurons consommé exactement plus de 2 mois depuis qu'on a signé l'accord d'Addis Abeba. Je peux me tromper. Alors, quelle est la situation exactement aujourd'hui sur le terrain? C'est ça qui est très important. Je crois qu'il faudrait quelque part voir si les déclarations du Rwanda, les déclarations de l'Ouganda sont accompagnées d'un acte d'engagement concret qui fasse que l'accord d'Addis aboutisse. Sinon, ben c'est vrai, la diplomatie, comme on dit, c'est une grande silencieuse, mais les résultats sont délicieux, c'est vrai, mais ça c'est mon avis personnel, je constate plutôt que plus le temps passe, plus les forces négatives concordent des stratégies qui fassent que, bon, nous attendons l'arrivée de la force de la brigade d'intervention. Alors, où nous allons concrètement? Je me dis, c'est le moment d'exercer une forte pression sur Kigali et Kampala, par exemple.
Mais cette fois-ci, il y a les organisations sous-régionales et même internationales qui s'impliquent pour que ces accords aboutissent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais dis, Samuel, Kampala, qui a initié Kampala actuellement? C'était la CRGL, qui est une structure très importante. Et maintenant que le M23 s'est retiré de Kampala, nous connaissons l'actualité. Quelle a été l'implication de la CRGL? C'est vrai, on peut avoir des organisations internationales derrière tout ça. C'est bien beau. Mais ce qui est important, à mon sens, ce ne sont pas des déclarations. Ce sont des actes concrets qui fassent que ce qu'on a écrit, ce qu'on a décidé ensemble, soit mis en application. Les déclarations, il y en a eu mille et une, il y en a eu plusieurs. Et les feuilles ont jauni.
Oh, Beno Kambere, comment est-ce que vous réagissez par rapport au point de vue de Laurel Kanko, le sujet de l'accord d'Addis Abeba qualifié par Mary Robinson d'accord d'espoir?
Oui, accord d'espoir, plusieurs accords, toujours des accords, mais il faudrait qu'on en arrive à du concret, et ce qui n'est pas encore le cas. C'est vrai, beaucoup de gens s'accrochent aux accords. J'ai entendu les officiels congolais qui s'accrochent à cet accord, surtout avec l'arrivée de la brigade spéciale d'intervention. Bon, c'est assez malheureux de la part des officiels congolais, tout simplement parce que au lieu qu'on s'attelle à faire en sorte qu'on ait une armée forte, une armée républicaine, nous nous accrochons, tout le monde sait que la RDC, les officiels de la RDC, souvent ont crié, ont parlé de la force neutre. J'ai même entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères dire que c'est cette force, cette brigade spéciale qui va s'occuper de la frontière avec le Rwanda. Je trouve que c'est malheureux. La tâche est en principe dévolue à notre armée. Au lieu qu'on s'attelle à mettre en place une armée forte, dissuasive, nationaliste, et qui ferait en sorte que, une armée républicaine qui ferait en sorte que nous soyons à l'abri de tout ça, on s'accroche à, certes.
Mais vous savez que l'armée congolaise est en cours de réforme.
Mais en cours de réforme, pendant combien de temps, cher Samuel? Ça fait longtemps qu'on parle de réforme de l'armée congolaise. Regardons à côté de nous. Il fut un moment où le Grand Zaïre, la République démocratique du Congo, intervenait au Tchad, n'est-ce pas? Tout le monde se rappelle de la bande d'Aouzou, où c'était les militaires zaïrois qui sont allés se battre avec les Libyens dans la bande d'Aouzou. On avait une armée qui était respectée. Aujourd'hui, par la volonté de Idriss Déby, en 4 ans, il a formé une armée qui se fait respecter à travers l'Afrique. Maintenant, au Mali, c'est l'armée tchadienne qui a été formée en 4 ans. On a parlé de former une armée républicaine chez nous depuis les accords de Sun City. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? On peut se poser des questions. Il y a eu des instructeurs étrangers qui sont arrivés, il y a eu des Chinois, il y a eu des Coréens, il y a eu des Américains. Quel est le résultat? Qu'on se fasse canarder par des petites rébellions à gauche et à droite, par la faute des dirigeants de notre armée? Non, soyons sérieux. Le Tchad a formé une armée en 4 ans. Aujourd'hui, le Tchad se fait respecter à travers l'Afrique. En Centrafrique, si le Tchad voulait que Bozizé ne tombe pas, Bozizé ne tomberait pas. Maintenant, si l'armée malienne n'est pas au nord du Mali, c'est l'armée tchadienne qui est en train de combattre. Et d'ailleurs, la France peut se retirer tranquillement parce que les Tchadiens sont au Mali. Ce n'est qu'un exemple.
Oui, Thierry Moukelekele, plusieurs observateurs nationaux et internationaux pensent que la solution à la crise congolaise est plus politique que militaire. Et on sait que l'accord cadre prévoit certaines recommandations que la RDC doit mettre en œuvre. C'est le cas de la notion du dialogue national. Ne pensez-vous pas que nous sommes en retard par rapport à cela?
Je dirais peut-être oui, peut-être non, mais je dirais qu'on est distrait. Nous sommes en pleine distraction. Parce que, voyez-vous, je ne parlerai pas tellement sur le plan militaire. Je parlerai plutôt sur le plan politique parce que c'est la mauvaise politique, la mauvaise gestion de la politique en République démocratique du Congo qui bloque l'armée congolaise de fonctionner. Vous comprendrez aussi que si vous entrez dans les rangs, nous avons des milliers de volontaires dans nos forces armées. Mais c'est au niveau de la politique où ça ne tourne pas. Il n'y a rien qui permet au président de la République de bien faire fonctionner l'armée. Parce que vous vous souviendrez que, à l'avènement de cette nouvelle constitution, le président de la République a mis sur l'armée et sur les services de sécurité. À l'époque de la...
Thierry Moukelekele, essayez un peu de bouger de là où vous êtes, puisque la communication se dégrade.
D'accord. À ce niveau-là?
Oui, là, vous pouvez y aller.
Oui, je disais que c'est la mauvaise politique du pays. Je rappelais aussi que dans la Constitution, le président de la République n'a plus la même mise sur l'armée et sur les services de sécurité comme à la Deuxième République. Ce qui veut dire que c'est au niveau de notre Parlement et au niveau de notre gouvernement où on devait faciliter l'armée à faire son travail. Mais aujourd'hui, voyez un peu ce que fait notre Parlement. Ils sont vraiment dans la distraction la plus totale. Jamais depuis toute cette année, ils n'ont discuté sur l'armée, sur l'avancée de la réforme de l'armée. Ils sont dans autre chose. Et si nous allons à l'est du pays, essayez, nous sommes journalistes, on a des amis sur le terrain, on a fait des investigations. Nos jeunes frères et nos frères qui en armes qui sont sur le terrain veulent bien défendre la nation congolaise. Mais ils vous diront que ceux-là qui intoxiquent et qui désorientent la population, c'est justement la classe politique. Suivez un peu. Madame Robinson, elle va au Rwanda et n'est pas reçue par le président rwandais. Ça signifie que Kagame connaît encore les faiblesses du Congo. Et entre-temps, le M23 installe son administration. C'est que même le M23 sait que, par rapport à la politique de Kinshasa, rien ne pourrait se faire pour défendre l'Est de la République du Congo par l'armée. Et pourquoi la politique, surtout notre Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, privilégie la fragilité de l'armée et va dans la distraction la plus totale en essayant d'attaquer les histoires de la CENI. Aujourd'hui, moi, j'estime que la priorité des priorités, ce n'est pas leurs 13 000 dollars qu'ils veulent, c'est amener le gouvernement à nous sortir une armée responsable et une armée qui peut défendre l'intégrité territoriale.
Merci Thierry. Lore Kankole, Thierry Mukelekele dit que c'est la mauvaise politique du pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou bien c'est notre armée qui est toujours harcelée?
Je ne le partage pas, mais je le respecte. C'est son point de vue, mais seulement il y a beaucoup de choses à recadrer dans les propos de Thierry. Entre autres, sur le rôle du Parlement, ils disent le Parlement devait, le Parlement n'a rien fait. C'est totalement pas faux, mais c'est ce qui n'est pas vrai. Parce que cette année, je crois quiconque comme moi sait que le Parlement a voté la loi portant réforme de l'armée. Et c'est ça le travail du Parlement. Il n'appartient plus au Parlement de dire voilà, qu'en est-il? Le Parlement a fait son travail, c'est une institution et il ne devra pas s'immiscer dans les attributions de notre organe. Il appartient maintenant au gouvernement dès que la loi est promulguée. Ok, quels sont les mécanismes de sa mise en application? Là, c'est très important qu'on regarde ça. Le Parlement fait son travail, la distraction, la CENI, encore moins, c'est pas une distraction. Si aujourd'hui, pas moins que hier, on a dit les élections ont été ce qu'elles ont été et qu'aujourd'hui on veut regarder l'avenir avec un regard optimiste. Donc il faudrait une institution d'appui à la démocratie qui soit également acceptable par tous de par ses membres. Et je crois que le Parlement n'a pas fait mauvaise route de ce côté-là.
Oui, Laurent Kankole, Thierry Mukelekele a également relevé qu'au moment où on parle de la brigade d'intervention et de l'accord d'Addis Abeba, le M23 nomme des administrateurs dans les coins qu'il administre. Comment est-ce que vous analysez cela?
Oui, Samuel, je l'ai dit au départ. On a signé des accords. Entre-temps, le M23 sur le terrain fait fi de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, dit « Ok, ça c'est leur affaire ». D'ailleurs, dès le départ, je dois vous rappeler une chose. Le M23 avait clairement dit qu'il n'était pas concerné par l'accord d'Addis. Et ce qu'il a fait aujourd'hui n'est qu'un acte qui vient en supplément pour apporter beaucoup plus d'appui à sa déclaration d'il y a deux mois. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est simplement, c'est un mouvement qui se fait aujourd'hui, une superpuissance qui fait un appel de pied pour renégocier, pour de nouvelles renégociations et placer la barre un peu plus haute. Voilà.
Oui, Beno Kambere, je vous repose la même question que Laurent Kankole. Le M23 nomme des administrateurs à la tête des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Est-ce une fuite en avant ou le M23 est en train d'augmenter les enchères?
Écoutez, avant d'y arriver, je voudrais, en sus de ce que Laurent a dit tantôt, dire à notre collègue Thierry que le chef de l'État est le chef suprême des armées, de la police et de tous les services de sécurité. C'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Pour reparler du M23, moi je crois que c'est tout à fait normal. Le M23 administre cette partie du territoire depuis 6 mois. Personne n'en parle. On a l'impression que c'est une partie qu'on a léguée aux gens. Le territoire de Rutshuru apparemment ne fait pas partie de notre pays. Le territoire de Nyiragongo ne fait pas partie de notre pays. Le poste frontalier de Bunagana a été fermé, certes, maintenant, c'est administré par le M23. Toute la route qui va de Kiwanja jusqu'à Nyiragongo, à Goma, c'est le M23 qui l'administre et qui tire même les taxes, qui prennent les taxes sur ce pays. Bon, alors, c'est tout à fait normal, ne reconnaissant pas l'accord cadre d'Addis Abeba, il nomme ses administrateurs parce que ces territoires doivent être administrés. On aurait fait plutôt que de reprendre Nyiragongo, de reprendre Rutshuru, ce serait facile.
Oui, mais non, quelle est la voie de sortie de cette crise, selon vous, Madame, compte tenu des différents mécanismes mis en place sur le plan national et international?
Mais le dialogue national, notamment, qui a été recommandé par l'accord cadre et qui, malheureusement, nous, les politiques congolais, ne s'accrochent que
à la brigade spéciale d'intervention. On ne parle plus du dialogue national. On a commencé ici par des initiatives éparses et éparpillées par certains partisans d'un certain parti pour que ce dialogue soit mis en place. Jusque-là, rien n'est fait. Si la cohésion nationale était là, si tous les Congolais parlaient d'un même langage, je crois qu'on se retrouverait unis par rapport à l'adversaire et peut-être qu'on trouverait des solutions. Mais parlons entre nous parce qu'on y va en ordre dispersé. Entre-temps, les autres sont en train d'administrer des territoires de notre pays. Ce n'est pas normal.
Thierry Mukelekele, à votre place, qu'auriez-vous proposé comme schéma de sortie de la crise congolaise au regard de ce qu'ont dit Laurent Kankole et Benoît Kambéré?
Oui, avant de donner ma proposition, j'aimerais rectifier un tout petit peu du côté de Benoît Kambéré. Quand nous sommes dans l'exposé des motifs de la Constitution de 2006, il est dit ceci, bien plus, les affaires étrangères, j'ai la Constitution devant moi, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Si nous rentrons dans le Parlement qui a déjà envoyer la loi et la loi est promulguée. Mais c'est mis le même Parlement avec la classe politique qui ne ménage pas bien la politique qui fait qu'à l'Est ça brûle, au Katanga ça brûle et un peu partout dans le pays. Pourquoi j'attaque le Parlement? Ils viennent de quitter des vacances parlementaires. Quels sont les messages qu'ils ont laissés dans la population pour la fameuse cohésion nationale à laquelle fait allusion Kambéré? Ce qui veut dire que le Parlement ne joue pas son rôle conciliateur de la société. Et c'est pourquoi je dis que l'armée est en train de regarder et d'observer. Parce que l'armée ne peut pas prendre des initiatives si la politique du pays ne marche pas. Le pouvoir est confisqué entre le Parlement et le gouvernement.
Mais Thierry Moukele, quel est votre plan de sortie de la crise congolaise?
Plan de sortie, je n'irai pas dans le sens du dialogue comme l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'irai dans le sens constitutionnel où le président de la République, en tant que régulateur des institutions, trouve des voies de sortie en convoquant les leaders politiques et à parler carte sur table.
C'est le dialogue.
Parce que le genre de dialogue, oui, mais le genre, permettez, le genre de dialogue auquel tout le monde fait allusion, c'est un dialogue à la basse-cour, où les canards diront ceci, les coqs chanteront, ça dit qu'il n'y aura pas l'initiative du chef de l'État d'inviter les différents leaders politiques que nous connaissons très bien. Dans l'est du pays, nous connaissons qui fait le poids. Au centre du pays, nous connaissons qui fait le poids. À l'ouest, nous connaissons qui fait le poids. C'est sur base de ces leaders politiques que nous pouvons trouver une voie de sortie. Si on amenait 2000 personnes encore dans une salle, nous reviendrons à la conférence nationale. Et vous connaissez les conséquences du schéma de la conférence nationale souveraine. Ce qui veut dire que nous serons butés aux mêmes réalités de 1990, 91, 92. Nous allons reprendre le cycle du désordre.
Merci Thierry.
Ce qui veut dire que je chute par là. Je trouve que au niveau de Kinshasa, la classe politique ne fait plus son travail. Au lieu de penser au devenir du Congolais, les politiciens pensent à leur avenir d'ici 2016. C'est ce qui commence à préparer. Souvenez-vous des conclaves, du MPR, de tous ces conclaves-là.
Merci.
Avant l'avènement de 1900.
Laurent Kankole, en 30 secondes, qu'auriez-vous proposé comme plan de sortie de la crise congolaise?
Oui, Samuel, vous êtes d'accord avec moi que lorsque le toit brûle, même si le conjoint était en conflit, la solution est d'abord d'éteindre le feu et puis envisager la réconciliation après. Ça, c'est automatique, c'est la loi de la nature. Moi, je me dis pour l'instant, il faudrait d'abord que tout le monde se ligue pour combattre, parce que je ne peux pas comprendre. À moins de me dire que les effectifs du M23 sont largement supérieurs aux effectifs de notre armée nationale. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'une armée, plutôt qu'une rébellion, puisse attirer aujourd'hui, être au centre d'une attention internationale. Moi, ça me dépasse, franchement. Alors, moi, le problème aujourd'hui, c'est de s'engager pour d'abord combattre les forces négatives. Avec en tête le M23, quand on les a combattus, la suite viendra.
Je vous remercie et sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce vendredi 3 mai autour du thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Dans une lettre ouverte publiée en marge de cette journée, l'ONG Le Journaliste en danger fait état de la dégradation constante du climat des journalistes en RDC. Cette ONG de défense des droits des journalistes parle, je cite, de la mise sous coupe réglée de la presse et des médias congolais par des pouvoirs politiques et financiers. Fin de citation. J'ai dit avoir enregistré 52 diverses violations des droits d'informer et d'être informé en RDC depuis le début de l'année 2013, soit une moyenne de 3 cas d'atteinte à la liberté de la presse chaque semaine. L'ONG appelle par conséquent les médias à briser les chaînes de la censure et de l'autocensure. L'essentiel de la lettre ouverte des journalistes en danger avec vous, Pélékipé Lamondo.
En comparant la situation de janvier à mai 2013 avec ses 52 cas de violation des droits d'informer à celle de la même époque l'an passé, qui était de 64 cas d'attaque contre les journalistes en RDC, j'ai de note entre autres une tendance à la baisse en termes de nombre d'atteintes à la liberté de la presse. Cette pseudo-tendance à la baisse en termes de nombre d'attaques contre les journalistes et les médias trouve en réalité son explication dans la censure et l'autocensure auxquelles sont confrontés les journalistes au quotidien, indique l'ONG. Pour GED, les prétextes de la guerre et la paranoïa sécuritaire cachent désormais des motifs inavoués qui servent à réduire au silence des médias qui gênent ou à se débarrasser des journalistes qui dérangent. La République démocratique du Congo, qui porte bien son nom de République démocratique, affiche un tableau sombre avec 4 journalistes derrière les barreaux, 2 chaînes de télévision fermées depuis la fin des élections de novembre 2011, un journal suspendu depuis plus d'une année et 2 films documentaires réalisés par des journalistes censurés et interdits de diffusion.
Toujours en marge de cette journée, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, dans un message conjoint, ont affirmé que chaque jour, la liberté d'expression fait face à des nouvelles menaces, parce qu'il contribue à garantir la transparence et la responsabilité dans les affaires publiques. Les journalistes sont souvent la cible des violences. Selon eux, cette journée a pour but de susciter une action internationale en vue de protéger la sécurité de chaque journaliste dans chaque pays et de briser le cercle vicieux de l'impunité. Benoît Cambéré, dans ce reportage Journaliste en danger, GED, note la tendance à la baisse en termes du nombre d'atteintes à la liberté de la presse. Et cette ONG explique cette situation dans la censure et l'autocensure auxquelles sont confrontés les journalistes au quotidien. Quelle est votre réaction?
Après le tableau qui a été fait tout à l'heure par Pélé, qui faisait un papier à propos de la déclaration de GED, on n'a qu'à voir 4 confrères en prison, ici à Kinshasa et à Goma, notre confrère de Rutshuru, qui a quitté le territoire M23 pour se retrouver en prison à Mounzenze, à Goma, n'est-ce pas? Autant de chaînes de télévision qui ont été fermées comme ça, de façon arbitraire, tout simplement parce que des chaînes de télévision tenues par l'opposition, n'est-ce pas? Autant de journaux muselés. Qu'est-ce que vous voulez que les autres confrères fassent? Tout simplement, ils se récoquerivent et la liberté de presse n'est plus celle-là. Les gens ont peur à voir. Patrick Palata est en train de poireauter. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il est malade. Il est à la prison militaire d'Ndolo en ce moment. Alors quand les gens voient ça, ils ont peur de faire leur travail. Et ça fait que la situation, elle est ce qu'elle est. C'est un trompe-l'œil que de dire que ça a baissé. Maintenant, les gens ont peur d'aller en prison. Les gens ont peur de faire leur travail correctement parce qu'il y a des antécédents qui font réfléchir, malheureusement.
Oui, Benoît Kambéré, mais que pensez-vous de l'accès à l'information et aux sources d'information garanties aux journalistes?
Qui n'est pas encore garanti. La loi sur l'accès à l'information, c'est une des batailles des organisations professionnelles, notamment le réseau des journalistes pour la gouvernance démocratique que j'ai l'avantage et l'honneur de diriger. Nous nous battons avec le collectif 24 dont fait partie GED pour que cette loi soit votée au Parlement et que nous ayons accès libre aux sources d'information. Il y a trop de top secret, secret défense. Maintenant, on commence même à mettre tout secret défense, alors que il y a des choses qui ne devraient pas être secret défense. On devrait savoir notre armée
On a recruté combien de gens? On a fait une politique de recrutement ici. Quel est le résultat? Personne ne nous a dit quoi que ce soit. On a trimballé de jeunes gens à gauche et à droite. Ça, ce n'est pas secret défense. On devrait savoir combien d'argent a été amené au fond pour que les militaires mangent, pour que les militaires fassent leur travail. On a vu des rations de guerre vendues à Kisangani. Qu'est-ce qui a été fait? Tout ça, c'est important que les sources d'information soient accessibles pour que le journaliste fasse son travail et qu'il ne soit pas muselé en cette journée mémorable, pour ainsi dire, de la Journée internationale de la liberté de la presse.
Oui, Laura Kankolé, comment le journaliste congolais peut-il finalement travailler dans ce contexte difficile où se trouve la RDC?
Samuel, est-ce que je me dis c'est le contexte du pays qui est difficile ou c'est le contexte du journaliste lui-même qui pose problème? Il faut voir si nous nous arrêtons aux fondamentaux, les principes basiques qui veulent que les journalistes qui collectent, traitent et diffusent. Dites-moi, sincèrement, regardons-nous en face. Comment nous collectons, comment nous traitons, comment nous diffusons? Et c'est là le vrai problème. Si aujourd'hui nous devons dire liberté de presse parce que je suis journaliste et que je dois avoir les yeux faciles parce que j'ai un support dans lequel je dois publier, je crois que ça pose problème. Si aujourd'hui nous devons dire je suis journaliste, je suis devant le micro ouvert, j'ai la liberté de dire tout ce qui me passe par la tête, je crois là aussi il y a un problème. C'est au stade du traitement que nous avons maintenant une lampe devant nous qui s'appelle déontologie et éthique professionnelle. C'est dans quel contexte je dois dire ceci? C'est dans quel environnement je dois dire cela? Et avec quel mot? Ça, c'est très important. Mais si nous nous disons la liberté de presse est comme un ruisseau qui doit couler sans interruption, je crois qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, nous devons être sincères quelque part. Ça, je sais que je vais égratigner Benoît. Regardons la situation, la radioscopie des médias en RDC à partir des 90 jusqu'à aujourd'hui. Nous comptons combien de titres sur le marché. Il y en a plus d'une centaine. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui ne paraissent plus, tout et tout. Des occasionnels. Là n'est pas le problème. C'est simplement dire que sur ce point de vue, il y a un pas de géant que nous avons franchi. Hier, c'était quelques 3 radios. Aujourd'hui, nous en comptons une cinquantaine. Hier, c'était quelques 4 ou 2 télévisions. Aujourd'hui, nous en sommes à une cinquantaine. Je crois que sur ce point de vue, il y a des efforts que le gouvernement a fournis. Appartient maintenant aux journalistes de s'assumer. Si j'ai dit militer contre l'autocensure, je ne sais pas à quel niveau alors on place la conscience. J'ai une information, je ne me donne aucune peine d'aller vérifier et confronter les sources, je la balance brutement.
Mais Laurel, l'autocensure
Un instant, Samuel. Et notre problème, c'est que généralement, il y a difficile à faire un distinguo quand est-ce que Kankolé est journaliste arrêté et Kankolé est citoyen congolais arrêté. Généralement, il y a ce mélange de genres, on l'a arrêté. Moi, on m'arrête, par exemple, pour un droit, plutôt pour une fraction de droit commun. Est-ce que c'est un journaliste qu'on a arrêté ou c'est un citoyen congolais qu'on a arrêté? Il faudrait pas que le statut de journaliste soit comme un paravent et qui donne lieu à certaines infractions pour dire non, c'est un journaliste. Là, c'est archi faux. Si moi, je suis arrêté, par exemple, je vais chez le chef de l'État et pour une interview au sorti, voilà, je suis inquiété. Ok, là, je suis exactement dans le cadre d'exercice de mon métier. Mais si on m'arrête dans un bistrot, on m'arrête dans un Ganda, parce que là c'est un Kankolé qu'on a arrêté, c'est pas un journaliste, je suis désolé, parce que généralement chez nous, nous mélangeons ce genre.
Merci Lorraine.
Et moi je n'ai jamais été pour la dépénalisation de ce qu'on appelle des délits de presse. Non, il faut faire, je crois, un distinguo très clair à ce propos.
Ok, merci Lorraine. Thierry Mukelekele, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de la dégradation du climat des travail des journalistes en RDC?
Bien, je ne saurais plus retourner sur ce que Lorraine vient de dire. Il a dit en grande partie beaucoup de vérités en rapport avec nous-mêmes. Moi, j'irais peut-être dans un autre sens. Est-il que beaucoup d'entre nous avions perdu l'éthique même journalistique, peut-être par rapport aux moyens de survie. La manière dont nous allons rechercher l'information, nous ne la recherchons plus comme nous l'avions apprise. Nous recherchons l'information et nous voulons la balancer peut-être pour survivre. Et là, ça joue sur nous-mêmes. Et directement, le politique nous attaque dans ce sens-là parce que nous sommes déjà faibles en recourant vers lui. Or, si le gouvernement nous avait pris au sérieux et que tout ce que la loi ou la constitution traite sur le journalisme était respecté, je pense, en ce qui concerne les subventions et tout, je pense que on éviterait beaucoup de choses. Mais regardez un peu le rapport dans Le Monde. Nous avons le rapport publié le 11 décembre 2012. C'est près de 232 journalistes dans Le Monde qui se sont retrouvés emprisonnés. Mais quand vous voyez les emprisonnements dans les autres pays, tels que l'Érythrée, telle que la Turquie, c'est plus dans des régimes dictatoriaux où ces gens sont privés réellement de leur liberté d'exercer le métier de la presse.
Merci Thierry.
Alors, si nous entrons au Congo, nous devons nous conscientiser. Moi, je suis d'accord avec Laurel. Nous devons vraiment jouer sur la conscience du journaliste pour que nous fassions très bien notre travail.
Merci Thierry. Benoît Kambéré, Laurel Kankole tout à l'heure disait qu'il n'est pas pour la dépénalisation du délit de presse. Quel est votre point de vue?
En tout cas, ce n'est pas mon point de vue du tout. La dépénalisation du délit de presse, le délit de presse est autre chose qu'une autre infraction de droit commun. Là, elle doit être dépénalisée. Un journaliste qui fait une enquête sur un produit périmé d'une clinique chinoise ici à Kinshasa se retrouve en prison tout simplement parce qu'il a mis sur la place publique une vérité. Ah non,
mais
non,
on l'arrête. Hein.
Oui.
Nous tendons vers la fin de l'émission.
C'est dommage.
Et nous savons que toutes les corporations au Congo sont structurées. Et dans le monde de la presse, on remarque la présence de plus en plus des mercenaires ou des moutons noirs qui exercent en dehors de toutes les règles établies.
Tout à fait.
Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour assainir la profession journalistique? Ça sera votre dernier mot.
Bah écoutez, vous avez tout à fait raison. Et c'est un malheur dans notre profession. On a encore vu des confrères qui se sont fait remarquer dernièrement en train de truander des certaines autorités de la place. Ça ne fait pas honneur aux journalistes. Il faudrait que l'UNPC sévisse. Il faudrait que le CESAC aide également à ce qu'on assainisse la profession et qu'on ne retrouve plus ces moutons noirs qui font la honte à la profession journalistique.
Laurel Kankole.
Oui, Samuel.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Forum des As. Quel pourrait être, selon vous, le portrait robot du parfait journaliste appelé à exercer dans un environnement démocratique et pluraliste? Et que pensez-vous également du chantage dans le monde de la presse en RDC?
Regrettable. Le portrait robot d'un journaliste professionnel, c'est celui qui respecte les lois du pays, c'est celui qui respecte le code de déontologie. Il n'y a pas de miracle. Et le plus grand malheur chez nous, c'est que peut devenir journaliste n'importe qui. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais quelques quatre vocabulaires de la médecine ou quelques deux règles du droit qui me donnent lieu à devenir avocat ou de faire partie de l'ordre des médecins. Je regrette. Il faudrait aujourd'hui... Benoît est peut-être assez modeste quand il dit il faut assainir. Moi, je dirais il faut même nettoyer. Il faudrait que l'UNPC revoie comment décerner les cartes professionnel. C'est pas parce que on a un petit support à main et puis ça donne lieu à une carte professionnelle. Je regrette.
Laurel Kankole, je vous remercie et nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au quotidien Forum des As, un journée qui paraît à Kinshasa. Dans cette émission, nous avons également Benoît Kambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos des Grands Lacs qui paraît également à Kinshasa, et Thierry Mukele-Kele, journaliste à la radio-télévision Jedi Dia de Kambove au Katanga. Était à la technique Jean-Claude Nsiala, Guy Matete à la réalisation de cette émission et à la présentation de l'émission Tribune de la Presse de ce soir. C'était votre serviteur Samuel Kachak sous la supervision de Pélé Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15, heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur les antennes de Radio Okapi.